J'ai déjà reçu quelques longues lettres où, manifestement, l'auteur n'avait rien à dire, sinon à s'entendre écrire. D'autres fois, un courrier ne contenait que quelques mots, mais ils m'ont touché. C'est le cas de la troisième épître de Jean, qui est des plus courtes, mais qui, en quelques phrases, en dit plus long qu'un long discours sur trois hommes, Gaius, à qui Jean rend hommage pour sa conduite et qui l'encourage à persévérer, Diotrephe, un responsable d'église qui agit comme un malotru, et Démétrius, dont il va être question maintenant et qui, comme Gaius, a une conduite plus qu'honorable. Je continue à lire dans la troisième épître de Jean. « Cher ami, imite non le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien appartient à Dieu. Celui qui commet le mal ne sait rien de Dieu. » Verset 11. Ce verset sert de transition entre la conduite ignominieuse de Diotrephe et l'éloge que va faire l'apôtre de Démétrius. L'expression traduite par « appartient à Dieu » littéralement est « de Dieu ». Elle apparaît plusieurs fois dans la première épître de Jean et elle suggère qu'un croyant qui marche dans la lumière obéit à Dieu et que ses actions tirent leur source de lui. La phrase « celui qui commet le mal ne sait rien de Dieu » littéralement est « n'a pas vu Dieu » est analogue à la déclaration de Jean dans sa première épître quand il dit littéralement « celui qui pêche ne l'a pas vu ni connu ». En d'autres mots, le comportement de quelqu'un reflète sa relation avec Dieu. Le mal et toute mauvaise action est toujours le produit d'un aveuglement spirituel de l'homme vis-à-vis de Dieu, ainsi que l'expression du péché qui réside dans son cœur. Cette vérité est amplement illustrée dans cette courte lettre par les attitudes ignobles de Diotrephe, qui se dit et se croit évidemment chrétien, mais qui agit tel un barbare en intimidant les autres responsables de l'Église dont il se veut être le seul chef. Cependant, et comme je l'ai déjà dit, Jean n'a aucune intention de passer sous silence les actes de ce dictateur ecclésiastique. On peut se demander comment les membres de cette Église ont pu accepter que cet homme devienne leur grand Manitou. On a coutume de dire que la parole est d'argent et le silence d'or, mais quelquefois le silence est jaunâtre, il est des plus navrants que devant l'intimidation et l'injustice, les gens qui ont une conduite droite ne disent rien. Pourquoi personne n'a osé tenir tête à ce Diotrephe ne nous est pas dit, mais l'apôtre a bien l'intention de remédier à cet état de fait, car ce n'est pas pour rien que Jésus lui a donné, ainsi qu'à son frère Jacques, le nom de « fils du tonnerre ». Les Écritures disent de Moïse qu'il était un homme très humble, plus que tout autre homme sur la terre. Pourtant, quand les enfants d'Israël se conduisaient mal, ils n'hésitaient pas à intervenir avec la plus grande fermeté. Dans les Évangiles, Jésus est décrit comme doux et humble de cœur et il se présente lui-même ainsi. Mais ça ne l'a pas empêché de maudire les pharisiens en long et en travers et de chasser brutalement les marchands ambulants qui venaient faire des affaires dans le temple. Je lis ce passage. Le jour où les Juifs célèbrent la fête de la Pâque était proche et Jésus se rendit à Jérusalem. Il trouva dans la cour du temple des marchands de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que des changeurs d'argent installés à leur comptoir. Alors, il prit des cordes, en fit un fouet et les chassa tous de l'enceinte sacrée avec les brebis et les bœufs. Il jeta par terre l'argent des changeurs et renversa leur comptoir, puis il dit aux marchands de pigeons « ôtez cela d'ici ». « C'est la maison de mon père, n'en faites pas une maison de commerce !» L'humilité et la douceur ne signifient nullement être une mauviette, mais être prêt à se battre pour ce qui est juste selon Dieu et pour défendre les opprimés. Ici, Jean appelle Gaius « cher ami », littéralement « bien-aimé », et c'est déjà la quatrième fois qu'il le nomme ainsi dans cette courte lettre. en lui disant « Imite non le mal, mais le bien », il l'exhorte à se comporter non comme Diotrephe, mais comme Démétrius, dont il va louer la conduite. Ces paroles de Jean à Gaius sont très proches de celles de l'apôtre Paul quand il écrit « Ne te laisse jamais dominer par le mal, au contraire, sois vainqueur du mal par le bien ». Quand Jean écrit « Celui qui commet le mal ne sait rien de Dieu », on peut être sûr qu'il a Diotrephe dans le collimateur. Cependant, il est plus modéré dans ses paroles que Jésus, qui n'a pas hésité à dire aux Juifs contredisants « Votre père, c'est le diable ». Néanmoins, on peut dire que ce despote ecclésiastique se comportait comme si son père était le diable. Ça me fait penser aux terroristes religieux qui furent à l'origine de tous les excès qui ont été commis au nom du Christ, et plus proche de nous, aux extrémistes qui se réclament de l'islam et qui, au nom de leur Dieu, n'hésitent pas à tuer avec le plus de férocité possible. Il est plus que probable que Diotrephe ne jouait ni du fouet ni de l'arme blanche pour régner, mais qu'il était passé maître dans l'art machiavélique de l'intimidation et de la médisance. Malheureusement, il arrive trop souvent que de véritables croyants aient des attitudes aussi répréhensibles que Diotrephe. La question qui se pose le concernant est donc celle-ci. Était-il possible que malgré sa façon d'être et de se conduire, qui était exécrable, Diotrephe ait été malgré tout un enfant de Dieu? Certains commentateurs pensent que oui et d'autres absolument pas. Je pencherai plutôt pour dire que non, parce qu'il me semble que c'est aussi l'opinion de Jean. Assez avec Diotrephe, car voici qu'un fidèle du Seigneur monte sur scène. Je continue le texte. Quant à Démétrius, tout le monde n'en dit que du bien, et la vérité elle-même témoigne en sa faveur. Nous aussi, nous nous associons à ce bon témoignage, et tu sais que nous disons la vérité. Verset 12. Si Diotrephe représente celui qui fait le mal et qui poursuit des objectifs purement personnels, Démétrius est l'inverse. Il est l'exemple du bon comportement et de la fidélité à la vérité. Pour cette raison, Gaius devait lui accorder l'hospitalité. Bien que Jean ne le demande pas explicitement à son ami, il semble quand même que ce soit l'implication de l'éloge que fait l'apôtre de ce nouveau personnage. Démétrius est un mot qui signifie « appartenant à Déméter », qui était la déesse grecque de l'agriculture, et plus spécialement du blé et de la récolte. Ce nom était très courant, tout comme Gaius. Il ne faut pas confondre le Démétrius de 3 Jean avec l'orfèvre d'Éphèse qui a fomenté une émeute pour s'opposer aux enseignements de Paul parce que l'annonce de la bonne nouvelle était très mauvaise pour ses affaires. En effet, ceux qui plaçaient leur foi en Jésus-Christ se détournaient de l'idolâtrie, ce qui nuisait financièrement tant à Démétrius qu'à ses compagnons orfèvres qui fabriquait des petits temples dédiés à la déesse Diane, aussi appelée Artémis, une occupation qui leur procurait des revenus considérables. Il existe encore un autre Démétrius dans le Nouveau Testament, mais c'est le diminutif Démas qui est utilisé. Compagnon de Paul, il apparaît 3 fois. Pendant le premier emprisonnement de l'apôtre, Démas, ainsi que Luc et Épaphras, était associé au ministère de Paul. Mais sous le feu de la persécution, Démas, qui était un disciple par beau temps, a lâchement abandonné l'apôtre parce qu'il aimait trop les plaisirs de ce monde pour accepter de les perdre. À ce sujet, l'apôtre Jean a écrit « Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui ». Quand Paul dit que Démas l'a abandonné, le verbe qu'il utilise est particulièrement virulent car il signifie « abandonner complètement quelqu'un qui est dans une situation désespérée ». Les deux Démétrius que je viens de mentionner sont aux antipodes de celui que Jean vient de nous introduire, qui, lui, est un fidèle à Jésus-Christ, de qui tout le monde rend un bon témoignage et sur qui on peut compter. Comme il n'apparaît nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament, tout ce que nous savons de lui est comprimé dans ce petit verset. Il est probable que ce soit aussi lui qui ait porté cette lettre à Gaius. Selon la loi juive, pour établir la culpabilité d'un homme accusé d'un crime, d'un délit ou d'une faute, quelle qu'elle soit, la déposition d'un seul témoin ne suffira pas. On ne pourra instruire l'affaire qu'après avoir entendu les déclarations de deux ou de trois témoins. Par contre, pour établir l'honorabilité de quelqu'un, la loi ne dit rien. Qu'à cela ne tienne. Selon l'apôtre Jean, le caractère noble de Démétrius est affirmé par trois sources différentes. Premièrement, et comme cela a déjà été dit, il jouit d'une bonne réputation dans les communautés chrétiennes qui le connaissent. Deuxièmement, il marche résolument dans la vérité et ça se voit et ça se sait. Dans son évangile, Jean écrit « Celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière pour qu'on voit clairement que tout ce qu'il fait, il l'accomplit dans la communion avec Dieu. » En d'autres mots, le comportement de Démétrius est conforme à l'enseignement des Écritures, ce qui se traduit dans la pratique par son amour pour les frères, un sujet qui tient beaucoup à cœur à l'apôtre puisqu'il en parle fréquemment dans son évangile et dans les trois épîtres. Troisièmement, Jean ainsi que ses collaborateurs joignent leur propre témoignage que Gaius sait être vrai à ceux des autres. L'apôtre en personne atteste de la valeur de cet homme. Gaius n'avait donc pas de raison d'hésiter à donner une hospitalité pleine et entière à Démétrius. L'exemple de cet homme montre qu'il est possible de mesurer la valeur de quelqu'un à sa réputation au sein de la communauté, à sa fidélité envers la vérité des Écritures et à l'opinion qu'ont de lui les autres dirigeants chrétiens. Démétrius est très bien considéré partout et en tout point. Il semble bien que Jean donne ce triple témoignage à son ami Gaius pour le rassurer concernant le caractère de Démétrius. On peut alors en déduire que des mauvaises langues avaient dû noircir ce brave homme en faisant courir sur lui de mauvais bruits. De là à pointer le doigt en direction du despote Diotrephe, il n'y a qu'un petit pas. En effet, s'il s'est permis de répandre des mauvais propos sur l'apôtre Jean et ses associés, il est évident qu'il ne va pas se gêner pour en faire autant envers n'importe quelle personne qu'il croit être une menace pour son statut de potentat. Or, la médisance, surtout si elle est subtile, est la méthode la plus efficace pour démolir son prochain. La preuve est que cela fait des lustres que les politiciens s'y adonnent avec acharnement. Quoi de plus facile, en effet, que de trahir et même exprimer l'inverse de la pensée de quelqu'un en offrant un résumé partiel et simplificateur de ce qu'il a dit. La bonne réputation est un bien précieux. Salomon écrit « Bon renom vaut mieux que grande richesse, et l'estime des autres est plus précieuse que l'or et l'argent. Mieux vaut un bon renom qu'un parfum raffiné. » Malheureusement, il est pratiquement impossible de réhabiliter sa réputation une fois que celle-ci a été descendue en flammes. Autant essayer de récupérer toutes les plumes d'un traversin qui s'est déchiré alors qu'on le secouait à la fenêtre un jour de grand vent. Le simple fait de nier une malversation dont on peut être accusé et d'essayer de prouver sa bonne foi inspire déjà la méfiance. Et puis, même quand tous les faits sont connus et clairs comme de l'eau de roche, des doutes subsisteront toujours dans l'esprit de certains. Pour cette raison, les Écritures condamnent avec la plus grande sévérité ceux qui salissent la réputation d'autrui. Comme il vaut toujours mieux prévenir que guérir, il est important de prendre toutes les précautions possibles pour garantir sa renommée et comme le dit l'apôtre Paul, abstenez-vous de toute apparence du mal. Je continue le texte de 3 Jean. J'aurais bien des choses à te dire, mais je ne veux pas les confier à l'encre et à la plume. J'espère te voir bientôt et alors nous nous entretiendrons de vive voix. Versets 13 et 14. La conclusion de la 3e épître de Jean est l'écho de la 2e où l'apôtre dit « J'aurai encore bien des choses à vous dire, mais je ne veux pas vous les communiquer avec du papier et de l'encre. J'espère pouvoir me rendre chez vous et m'entretenir avec vous de vive voix. » Dans ces 2 épîtres, Jean a beaucoup plus à communiquer que ce qu'il a écrit. Cependant, dans chacun des cas, il souhaite continuer la conversation en personne et non avec l'encre et la plume, littéralement, mais non au moyen de noir et de roseau. Je finis la 3e épître de Jean. Que la paix soit avec toi, les amis te saluent, salue nos amis, chacun personnellement. Verset 14. Au 1er siècle, on se souhaitait la paix entre amis aussi bien pour se saluer que pour prendre congé. C'était une brève prière dans laquelle on demandait à Dieu de les entourer de sa paix. À cette époque, la paix ne voulait pas dire, comme de nos jours, absence de guerre. C'était bien plutôt un mot qui évoquait la présence positive d'une bénédiction comme la paix intérieure de la conscience, la paix fraternelle de l'amitié et la paix surnaturelle que Dieu seul donne. Ici, Jean termine sa lettre en utilisant le terme « ami » qui est rare dans le Nouveau Testament parce que les auteurs sacrés lui préfèrent le mot « frère ». Mais il se peut fort bien que pour l'apôtre, « ami » ait une connotation très particulière et fasse référence au jour où Jésus a dit à ses disciples « Je vous appelle mes amis » parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Cependant, si être l'ami de Jésus est le plus grand privilège qu'un homme puisse revendiquer, pour le devenir, il faut lui obéir, car il a aussi dit à ses disciples, « Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. » Les adieux de l'apôtre, « Que la paix soit avec toi », sont adressés à Gaius, mais ce souhait convient parfaitement à l'Église dont il fait partie à cause de la situation dramatique dans laquelle elle est plongée à cause de Diotrephe, le dictateur ecclésiastique dont il a été longuement question. De toute évidence, Gaius et Jean ont des amis communs dans l'assemblée d'Éphèse qui ont demandé à l'apôtre de saluer Gaius de leur part. Jean en profite pour demander à Gaius de saluer d'autres amis communs qui appartiennent à son cercle de connaissances. Jean ajoute à la salutation finale « chacun personnellement », littéralement « par son nom », ce qui ajoute une touche amicale et intime. Bien que l'apôtre ne nous donne pas la liste de ses amis, il veut que chacun sache que la salutation s'adresse à lui personnellement et individuellement. C'est comme s'il demandait à Gaius, « Va dire à Démétrius, j'ai un message de Jean pour toi. Il veut que je te salue en son nom et que tu saches qu'il va bientôt venir nous rendre visite. » L'expression grecque qui est traduite « par son nom » se retrouve une seule autre fois dans le Nouveau Testament, et c'est encore sous la plume de Jean, quand il rapporte dans son évangile que Jésus a dit « Celui qui entre par la porte est lui le berger des brebis. Le gardien de l'enclos lui ouvre, les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent, et il les fait sortir de l'enclos. » À plus de 90 ans, l'apôtre chérit toujours ceux auprès de qui ou avec qui il a œuvré pour le Seigneur. Bien que cette lettre soit des plus brèves, le concept de la vérité y est très présent. Premièrement, les croyants doivent connaître la vérité et y obéir, ce qui apparaît clairement quand Jean dit se réjouir parce qu'il a reçu le témoignage que Gaius demeure attaché à la vérité et vit selon cette vérité. Deuxièmement, les croyants doivent pourvoir aux besoins de ceux qui proclament Jésus-Christ parce que, dit Jean, c'est notre devoir d'aider de tels hommes, ainsi nous collaborerons à ce qu'ils font pour la vérité. Troisièmement, les croyants doivent suivre l'exemple d'hommes pieux comme Démétrius qui marche dans la vérité. Jean écrit, « Celui qui fait le bien est de Dieu. Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage. Là où la vérité prévaut, le Seigneur est glorifié dans son Église. » Dans cette petite épître, le christianisme du 1er siècle est jugé au travers de Gaius, Diotrephe et Démétrius, les trois hommes que Jean mentionne. L'un est une peste, un dictateur ecclésiastique, mais deux d'entre eux sont des hommes sur qui on peut compter parce qu'ils sont fidèles à Jésus-Christ et à la vérité. L'emploi du mot « ami » à deux reprises dans la salutation finale de l'apôtre Jean est un rappel autant à Gaius qu'à tous ceux qui veulent être fidèles à Jésus-Christ que les croyants doivent former partout des réseaux d'amis qui sont prêts à s'aider les uns les autres chaque fois qu'un besoin se fait sentir. Les mots « ami » et « frère » font partie de l'esprit du christianisme qui permet à chaque croyant de rencontrer très loin de chez lui des gens qu'il n'a jamais vus auparavant et découvrir un lien immédiat de communion avec eux grâce à notre foi commune en Jésus-Christ.